Salut tout le monde. Donc, en espérant que vous m'entendez tous, hein. Vous signalez sur le chat si ça fonctionne pas. Donc, je vais vous faire un. Merci Tristan. Je me suis proposé aujourd'hui pour vous organiser un débat autour de la guerre du Vietnam parce qu'il y avait des camarades qui demandaient des formations. J'en avais une toute prête. Donc, en fait, je vais me baser sur un. Au fait, j'ai combien de temps?
35 minutes jusqu'à 11h, 11h.
D'accord, ok, d'accord, merci. Donc je vais me baser sur un. J'ai écrit deux articles sur le sujet depuis que j'ai commencé à militer. Je vais me baser sur un article que j'avais écrit en. Excusez-moi. Il y a le chat qui voulait sortir. Je vais me baser sur un article que j'avais écrit en 2008 pour le journal des JCR au moment des 40 ans de l'offensive du Tet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est que ce moment d'histoire. Et puis, j'avais aussi un topo beaucoup plus complet qui dure 1 heure et demie, 2 heures sur les 50 ans du festival de Woodstock et où forcément, je reviens aussi sur la guerre du Vietnam et sur le contexte. J'ai envoyé les deux topos sur la liste mail. De l'arc du processus. Donc vous pourrez aller voir pour avoir des éléments de contexte, mais je vais prendre mon topo court aujourd'hui. Donc pour commencer, en fait, je ne vais pas aborder la question de la guerre d'Indochine entre les Français et les Vietnamiens, parce que c'est un sujet en soi qui est beaucoup trop long. Donc je commence moi directement après la fin de la guerre d'Indochine. Au moment où c'est les Américains qui mettent les pieds au Vietnam. Donc les Français perdent la guerre en 1954 à Dien Bien Phu et face au Parti communiste vietnamien dirigé par Ho Chi Minh. Et c'est l'impérialisme américain qui va prendre le relais parce qu'ils avaient fourni des armes aux Français, ce qui n'a pas empêché leur défaite. Et il y a en 1954 un compromis sous pression de la Russie, de la Chine et puis des impérialistes occidentaux, un compromis qui est passé entre les impérialistes et les communistes du Nord-Vietnam qui sépare le pays en deux. En fait, on se retrouve avec un pays qui au nord est dirigé par Ho Chi Minh et le Parti communiste et au sud, la République du Vietnam qui officiellement est indépendante, mais qui en fait est un régime fantoche et pourri qui est à la botte des Américains, même si formellement c'est pas eux qui le dirigent. C'est un régime corrompu, tyrannique et impopulaire qui est dirigé par la famille Diem. Et voilà, donc la situation à partir de 54, c'est celle-là. C'est un pays divisé en deux. Le bloc de l'Est qui fait pression sur les Vietnamiens pour qu'ils acceptent un compromis qui est accepté provisoirement, mais on sait aujourd'hui, d'après toutes les sources qu'on a aujourd'hui, que du côté des Vietnamiens et d'Ho Chi Minh, c'était un compromis qui, dans leur tête, était provisoire et qui ne pouvait pas durer. Et l'objectif de réunifier le Vietnam a toujours été en ligne de mire. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, les Vietnamiens se préparent à. Dès le moment où le pays est coupé en deux, les Vietnamiens se préparent à. S'ils savent que les Américains vont revenir tôt ou tard, et ils se préparent à une nouvelle guerre. Et je vous expliquerai par la suite ce qu'ils ont fait et comment ils se sont préparés. Alors, le problème, c'est que le régime du Sud-Vietnam est un régime complètement impopulaire qui va, à partir de 1956 jusqu'au début des années 60, il va faire face à une agitation permanente parce que c'était un régime totalement corrompu qui tirait sur les manifestants, les étudiants, qui emprisonnait des moines dans un pays bouddhiste. Et il se retrouve en même temps avec les communistes du Nord qui infiltrent une guérilla dans les campagnes du Sud. Donc, et qui créent de l'agitation et de la déstabilisation toujours dans le but de réunifier le pays. En 1963, l'agitation, elle est telle. Il y a des manifs où la police sud-vietnamienne tire à la mitrailleuse. Il y a des moines qui s'immolent par le feu. Les États-Unis lâchent Ngo Dinh Diem, le président du Sud-Vietnam, qui le juge incapable de faire face à la situation. Il est assassiné et il est remplacé par Win Van Thieu, qui est pas différent, qui est un personnage complètement, pareil, complètement corrompu et complètement fantoche. La situation ne se stabilise pas, donc il y a guérilla, manif. Voilà. Et c'est à tel point qu'en août 1964, les États-Unis décident, après avoir fait une provocation, après avoir fait pénétrer un bateau militaire dans les eaux territoriales du Nord-Vietnam, et après que les Vietnamiens aient répondu en leur tirant dessus, ils choisissent l'escalade complète. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà, en août 1964, il y a ce qu'on appelle des conseillers militaires américains qui sont sur place. Ils sont 15 000, c'est-à-dire c'est des officiers de l'armée américaine et des forces spéciales qui sont présents sur place pour former et entraîner l'armée sud-vietnamienne à la lutte contre la guérilla. Voilà. Et ils sont 15 000 à ce moment-là, mais à ce moment-là, l'armée américaine ne combat pas directement. En août 64, il y a un tournant. Lyndon Johnson, le président américain, décide au moyen d'une résolution devant le Congrès, d'une intervention militaire directe. Donc ça veut dire campagne de bombardement massif sur le Nord-Vietnam, sur les infrastructures civiles et militaires. Et puis surtout, à partir de mars 1965, l'envoi des soldats américains au Sud-Vietnam, au sol, pour combattre directement contre la guérilla communiste. En 1965, il y a 200 000 soldats américains qui sont envoyés sur place et 200 000 de plus en 1966. Alors, au début, il y a beaucoup de volontaires, plusieurs dizaines de milliers, puisque l'atmosphère de guerre froide aux États-Unis, la propagande anticommuniste, il faut défendre le rêve américain, voilà, combattre les Soviétiques. Donc, ça motive plusieurs dizaines de milliers de soldats à s'engager volontairement, mais il y a aussi la conscription qui est mise en place, où les jeunes sortant du lycée reçoivent leur ou les jeunes n'étant pas à l'université reçoivent une sont tirés au sort, et ceux qui tirent le mauvais numéro sont envoyés au Vietnam. Donc ça va jouer un rôle important pour la suite. Savoir qu'au plus fort du conflit, fin 1968, il y aura près de 600 000 soldats il y aura près de 600 000 soldats au Américains présents au Sud-Vietnam, sur un territoire qui est plus petit que la France. Ça vous donne une idée de la concentration militaire qu'il y avait à cet endroit-là, plus les bombardements sur le Nord-Vietnam. Au début, l'opinion publique américaine est largement favorable à cette intervention, toujours par rapport à ce que j'ai dit, l'effet de propagande, et le climat de guerre froide. Mais c'est quelque chose qui va évoluer, en fait, peu à peu, crescendo. Notamment quand il y avait quelque chose qui était important, c'est qu'au début de la conscription, les étudiants, ceux qui étaient inscrits à l'université, avaient ce qu'on appelait des sursis, c'est-à-dire tant qu'ils menaient leurs études, ils avaient l'assurance de ne pas être envoyés au Vietnam. S'ils rataient leurs études, qu'ils quittaient la fac, le sursis est élevé et ils y partaient. Donc en 1968, les sursis étudiants sont levés. Grave erreur du gouvernement américain, qui va provoquer des réactions que je vais décrire. Donc l'opinion publique américaine évolue face à ça, devant les pertes au début, les pertes de leurs soldats. C'est pas c'est, au début, c'est un sentiment de, on voit les corps de leurs jeunes qui reviennent, il y a un sentiment de révolte face à ça. Au tout début, plus que directement par solidarité avec les Vietnamiens, même si ça va changer aussi. Et l'inflation provoquée par les dépenses de guerre, qui pompe sur le budget des écoles, des hôpitaux, et des dépenses sociales. Alors, en face, je vais parler vite rapidement des. Je vais vous décrire comment était le camp des. Les combattants vietnamiens face à l'impérialisme américain. Savoir que le PC vietnamien avait réussi à battre les Japonais en 1945, puis à battre les Français au bout de 8 ans de guerre. Et donc il y avait toute une expérience des formes d'organisation militaire et populaire qui était très très solide. Et ils s'étaient préparés depuis 1956, notamment éventuel retour des Américains, en creusant des tunnels, des centaines de kilomètres de tunnels partout dans le pays, qui leur servaient de lieu de repos, de cache d'armes, qui leur permettaient de circuler sous terre sans être repérés. Il y avait une piste qui était creusée à travers les montagnes du Laos et du Cambodge pour aller du nord au sud du Vietnam en contournant la frontière entre les deux Vietnams, en contournant l'armée américaine et les soldats sud-vietnamiens. Plusieurs milliers de kilomètres de piste avec des camions qui circulaient dessus, ça s'appelait la piste Ho Chi Minh. C'était structuré, en gros, c'était le parti communiste vietnamien qui dirigeait tout, mais tu avais une véritable armée nord-vietnamienne et une guérilla qui était au sud, et une population très très organisée, très structurée, malgré un régime stalinien, puisqu'il faut pas se le cacher, qui hésitait, qui était pas, qui était, comment dire, qui hésitait pas à être impitoyable avec les gens qui s'opposaient à eux. On a quelques exemples pendant la guerre. C'est qu'il n'y avait pas non plus de besoin de forcer la population pour résister contre les Américains, parce qu'il y avait la conviction qu'il y avait un envahisseur à dégager, et il y a une mobilisation générale de la population, quels que soient comment dire, les aspects critiquables de la direction vietnamienne. Il y avait une véritable résistance populaire. Et une résistance tout à fait exceptionnelle, comme on n'a certainement jamais vu depuis, une capacité de résistance face à la première armée du monde. Alors, c'est vrai qu'ils étaient aussi ravitaillés, les Vietnamiens étaient ravitaillés en armes par les Chinois et les Soviétiques, donc ça jouait quand même un rôle. Les Chinois et les Soviétiques ne pouvaient pas, dans cette situation de guerre froide, ne rien faire, ne pas réagir, même s'ils avaient aussi des calculs politiques derrière. Ils se retrouvaient quand même à délivrer massivement des armes aux Vietnamiens. Mais il n'y avait pas d'aviation, il n'y avait pas de logistique importante. Et en face, c'était la première armée du monde qui a utilisé tous les moyens à sa disposition. Quand je dis tous, c'est tous, à l'exception de la bombe atomique. Ils ont mis toute la force militaire qu'ils pouvaient, à l'exception de la bombe atomique, pour parvenir à leur fin, c'est-à-dire mettre fin à la guérilla vietnamienne et empêcher la réunification du pays. Ce qui, on va voir, était complètement illusoire. Il y a eu deux fois plus de bombes déversées sur le Vietnam que n'en avait utilisé l'ensemble des belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc sur un pays qui est un peu plus grand que la France, il y a eu deux fois la quantité de bombes utilisées par la Deuxième Guerre mondiale. C'est une quantité complètement inimaginable. Ça donne une idée des ravages que ça a pu faire sur le pays. Il y a des régions entières qui sont rasées. L'armée américaine déverse ce qu'on appelle des défoliants, c'est-à-dire des produits chimiques à base de dioxine qui servent à détruire la végétation et les récoltes et à détruire le couvert des soldats dans la jungle. Ces millions de litres de produits chimiques, ça avait évidemment empoisonné les terres, empoisonné la population. Il y a encore des personnes handicapées aujourd'hui, des enfants qui naissent mal formés. Ça va aussi empoisonner les soldats américains au passage. Donc voilà, et puis évidemment l'armée américaine et puis leurs alliés sud-vietnamiens se livrent à des massacres, des exactions, des viols, des tortures, comme dans toute guerre impérialiste. Mais ils parviennent pas à venir à bout de la guérilla qui est permanente, impossible à vaincre, avec un ennemi qui est invisible. L'armée américaine ne voit rarement leurs ennemis, et la seule façon pour eux de continuer à tenir le conflit, c'est leur puissance de feu, les bombardements massifs. Ok, il me reste encore une demi-heure, ça va passer. Alors, dans le courant de l'année 1967, la direction vietnamienne, après des longs débats internes, qui n'étaient pas publics à l'époque, mais qu'on a fini par connaître, débat interne entre savoir s'il fallait continuer sur la stratégie de guérilla ou se lancer dans une guerre frontale purement militaire face à l'armée américaine. Donc ils étaient un peu divisés entre eux. Il y a eu et ce qu'il a emporté finalement, c'est l'idée de faire une démonstration de force et d'attaquer frontalement l'armée américaine et prouver la capacité des Vietnamiens à gagner la guerre, à battre les impérialistes. Donc à ce moment-là, en 1967, au courant de l'année, on ne sait pas encore tout. On ne sait pas exactement à quel moment, mais ils décident de choisir ce qu'on appelle la période du Tet, c'est le nouvel an vietnamien, qui a lieu entre le 30 janvier et le 20 février 1968. Ils choisissent cette période, qui est une période d'habitude de cessez-le-feu, pour préparer une offensive et pour surprendre les Américains qui s'y attendent pas, malgré il y a des renseignements militaires de la CIA qui ont quelques infos, mais qui se laissent complètement prendre au dépourvu. À la fin de l'année 1967, il y a 200 000 combattants du Nord-Vietnam qui sont envoyés au sud par la piste Ho Chi Minh, c'est ce que je vous décrivais, la piste dans les montagnes et la jungle, qui servait de piste de ravitaillement. 200 000 combattants sont envoyés par là en transportant des explosifs et des armes avec une ingéniosité assez incroyable, en cachant les armes dans des berceaux, dans des cercueils, voire même dans des cimetières, en les faisant porter par des femmes qui étaient moins contrôlées par les militaires, et donc plus susceptibles de pouvoir passer des armes d'une zone à l'autre. Dans le même temps, ils lancent une attaque militaire contre une base américaine pour faire diversion et diviser les forces impérialistes. Et l'essentiel de l'attaque se prépare hors de vue des Américains, donc ce que je vous disais, dans le réseau de tunnels qui s'appelle le réseau Cooch, qui court sur des centaines de kilomètres dans le sol et que l'armée américaine réussira jamais à détruire. Donc c'est un rôle décisif. Donc dans la nuit du 30 janvier 1968, il y a toutes les grandes villes du Vietnam, en premier lieu Saïgon, qui sont prises d'assaut par des troupes régulières de l'armée vietnamienne infiltrées au sud et des milices de la guérilla. Donc les bases militaires américaines et celles de leurs alliés sont attaquées par plusieurs dizaines de milliers de combattants. L'ambassade des États-Unis à Saïgon est prise pendant plusieurs heures. L'armée américaine, dans un premier temps, doit reculer face à cette offensive, notamment la ville de Hue, qui est l'ancienne capitale impériale, va tomber dans les mains du Front National de Libération vietnamien. Et ils vont la tenir pendant un mois. Et les Américains, pour la reprendre, l'armée américaine va pour reprendre la ville, vont la raser. L'offensive du Tet, donc, elle est finalement repoussée grâce à la puissance de feu des Américains, parce qu'avec les hélicoptères, les avions, les bombardements, ils avaient malgré tout un avantage plus qu'important. Et sur un plan purement militaire, c'est un échec. Il y a entre 40 et 90 000 Vietnamiens, dont de nombreux cadres militants qui sont tués. Il y a plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Et le gouvernement sud-vietnamien, contrairement au calcul du Parti communiste, qui s'attendait à un soulèvement populaire général, le gouvernement ne tombe pas. Donc c'est un semi-échec, au plan militaire. Mais par contre, c'est une victoire politique. Parce que le Front National de Libération vietnamien a démontré qu'en fait, il peut attaquer où et quand il veut, que ses structures politiques sont en place, et que le soutien de la grande majorité de la population lui est acquis. Pas toute la population, mais la majorité. Alors c'est un tournant pour la guerre, parce qu'en fait, aux États-Unis, l'offensive du Tet va provoquer le retour de 5000 soldats morts, les fameuses vidéos, images que certains ont peut-être déjà vues de soldats qui reviennent dans des housses mortuaires. Dans les premières semaines de 68, il y a 5000 soldats américains qui reviennent morts au pays, 15 000 blessés. L'armée américaine aura 15 000 tués pour la seule année 1968. Et à ce moment-là, ça retourne l'opinion, complètement. Il y avait un mouvement anti-guerre qui allait crescendo, qui était essentiellement concentré dans certaines facs bien militantes, dans des réseaux d'extrême-gauche, il y avait des manifs qui commençaient, mais c'était encore relativement limité. Et à ce moment-là, le tournant de l'offensive du Tet, c'est aussi un tournant dans la population américaine qui comprend qu'en fait, tout ce qu'on lui a dit sur la guerre était un mensonge et que cette guerre sera jamais gagnée. Ils ne peuvent pas la gagner. D'ailleurs, il y a des comptes rendus de soldats américains qui disaient dans leurs lettres à leurs proches des 1966-67 que la guerre ne pourrait pas être gagnée, parce qu'ils sentaient que face à eux, il y avait une résistance qui ne pouvait pas être vaincue. Une résistance tellement populaire et tellement organisée qu'ils ne pouvaient pas gagner. Donc le mouvement pacifiste à ce moment-là aux États-Unis s'envole et prend un caractère de masse, en premier lieu dans les universités. Ça se manifeste par exemple des désertions massives, des fuites au pays le plus proche et le plus facile à atteindre, c'est-à-dire le Canada. Il y aura plus de 100 000 déserteurs. Des refus d'incorporation, des gens qui déchirent leur carte d'incorporation, leur carte d'envoi au Vietnam. Des bureaux de recrutement qui sont incendiés et saccagés. Ça prend un caractère complètement exceptionnel, notamment le 15 novembre 1969. Il y a plus de 6 millions de personnes qui descendent dans les rues des États-Unis contre la guerre. C'est la plus grande manifestation de leur histoire. Ça se manifeste par des grèves étudiantes. Notamment, alors, il faut savoir que la mobilisation va crescendo, mais la répression de l'appareil d'État américain aussi. En 1968, en août 68, il y a un rassemblement contre la Convention démocrate de plusieurs dizaines de milliers de pacifistes à Chicago qui est matraqué et gazé devant les caméras de télé avec une sauvagerie très très importante. Au printemps 1970, le 4 mai, il y a la garde nationale américaine investit l'université de Kent State dans l'Ohio. Et face à des manifestants étudiants, tire dans la foule et tue 4 étudiants. La réaction ne se fait pas attendre. Dans les jours qui suivent, il y a plus de 400 universités qui se retrouvent occupées pendant un mois sur toute la fin de l'année universitaire aux États-Unis. Plus de 4 millions d'étudiants font grève. C'est aussi la plus grande mobilisation étudiante de leur histoire, comme ils n'ont pas connu depuis, mais qui était sans précédent à l'époque. Le mouvement pacifiste est tellement important que ça va jusqu'à la rébellion dans les rangs de l'armée. Ça va de refus de combattre, donc le mec qui est sur place au Vietnam et qui dit non, je vais pas combattre. Des officiers qui se font assassiner à coups de grenade ou de fusil par leurs soldats. Des soldats qui montent des journaux pacifistes. Il y aura plusieurs dizaines de journaux pacifistes au Vietnam même, créés dans les casernes par les soldats. Et tout ça s'ajoute à un contexte général. Je vais passer rapidement sur les éléments de contexte qui sont plus développés dans mon deuxième topo, celui où je parle du festival de Woodstock. Je développe plus longuement, mais en gros, c'est une époque, de toute façon, de manière générale, où beaucoup de choses sont remises en cause. C'est l'année 1968 dans le monde, et donc on remet en cause la famille, l'autorité, le pouvoir du patron, le mari, les normes sexuelles. Et tout. Donc il y a un contexte général qui aussi est favorable à une telle mobilisation. Il y a des révoltes dans les ghettos noirs américains, notamment avec après l'assassinat de Martin Luther King. Il y a la naissance du Black Panther Party, l'émergence du mouvement féministe, de la vague du mouvement féministe qui naît aux États-Unis. Il y a les révoltes LGBT, notamment à Stonewall à New York. Il y a une renaissance du mouvement indien. Plein de choses. Et une des expressions les plus emblématiques de cette époque-là, de la mobilisation anti-guerre, je me concentre sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que on pourrait parler de ce qui s'est passé un peu partout dans le monde, mais c'est beaucoup trop long, donc trop compliqué pour moi de l'aborder tout de suite. Une des expressions les plus emblématiques de cette époque-là, c'est la façon dont la jeunesse se mobilise, c'est le mouvement hippie. Avec notamment de manière emblématique, mais pas que, c'est pas le seul, mais vraiment celui-là est très très important, c'est le festival de Woodstock, qui sert de porte-voix à toute une génération qui s'exprime contre la guerre dans des grands rassemblements culturels, à des festivals, à écouter de la musique et à faire de la politique en même temps. Donc voilà, c'est de manière générale une époque de remise en cause de la société. Et le mouvement anti-guerre contre la guerre du Vietnam est le plus grand mouvement anti-guerre de l'histoire. Alors, il y a eu le mouvement de 2003, mais qui a duré moins longtemps et qui, en termes de politisation, était quand même pas tout à fait au même niveau. Donc, il y a eu effectivement la manif du 15 février 2003 avec 15 millions de manifestants, mais ça a plus eu un effet feu de paille, ce qui est dommage. Mais c'est différent. C'est différent. Là, on parle d'un mouvement anti-guerre qui a secoué un pays pendant 5-6 ans et a forcé la première armée du monde à perdre une guerre. Donc, en 1973, en janvier 1973, il y a les accords de Paris. Et donc, l'effet combiné de la résistance vietnamienne invincible malgré les pertes. Et de la résistance à la guerre de la population américaine, de la révolte de plus en plus généralisée, ça oblige les États-Unis à signer les accords de Paris, à retirer leurs troupes. Et voilà, retirer leurs troupes. Alors, ça les a pas empêchés avant d'avoir, pendant 2-3 ans, porté la guerre au Laos et au Cambodge et avoir détruit ces pays. Ce qui va jouer un rôle notamment dans l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. Mais je ne détaille pas plus, on pourra en discuter dans le débat. Le résultat, il est tragique. C'est-à-dire que, y a 2 millions de Vietnamiens qui ont perdu la vie. Il y a un pays détruit par les bombes et les produits chimiques et les exactions des armées. 2 millions de Vietnamiens sont morts. Du côté américain, c'est 58 000 morts, 300 000 blessés et 700 000 invalides psychologiques avec des pathologies lourdes. La moitié de l'armée américaine sort accro aux drogues dures. Et c'est la première défaite des Américains et elle va marquer toute une génération. Elle marque encore une partie de la population là-bas et ça sera le cas tant que les vétérans du Vietnam seront en vie. Il y aura quelque chose qui sera jamais refermé par rapport à ça. Les Américains parlent de plaie ouverte qui s'est jamais refermée. Donc voilà, je vais bientôt terminer. Et les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que l'impérialisme et la bourgeoisie sont pas invincibles, mais dans certaines conditions évidemment, qu'un peuple opprimé, s'il bénéficie de certaines conditions particulièrement favorables et qu'il est organisé, qu'il mène une lutte massive et populaire, peut arriver à battre les impérialistes. C'est important aussi que les luttes de ces peuples arrivent à gagner la solidarité des travailleurs dans les pays impérialistes, ce qui a fini par être le cas aux États-Unis vis-à-vis des Vietnamiens. Donc au début, ce qui est une révolte morale et humaniste et personnelle contre quand les soldats américains reviennent morts, se transforme peu à peu en une solidarité de plus en plus importante vis-à-vis de la population vietnamienne. Donc il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Et la défaite au Vietnam, elle va ouvrir 10 ans de crise politique aux États-Unis. Et ils n'interviendront pas massivement militairement dans un pays étranger avant la guerre du Golfe, 15 ans plus tard. Donc il y a eu un effet de. Cette défaite a provoqué un état de paralysie dans l'impérialisme américain. Donc ça, c'est important aussi. J'en ai terminé. Donc je vous ai mis dans les deux topos que j'ai envoyés sur les listes mail, je vous ai mis une longue bibliographie. Il y a un nombre de bouquins, de films assez impressionnants. Une différence importante entre, par exemple, nous, sur la guerre d'Algérie, où le sujet est extrêmement tabou, même encore aujourd'hui, les États-Unis, c'est la production culturelle. 3 ans après la fin de la guerre du Vietnam, Hollywood produisait déjà des films sur la question et des films critiques de l'impérialisme américain, de la guerre, plus que critiques, dénonçant cette horreur. Mais la raison à ça, c'est que le mouvement anti-guerre a été plus important là-bas, il a été majoritaire dans la population. Donc il y a eu plus de marge de manœuvre pour remettre en cause la politique américaine derrière. Voilà. Et donc il y a un nombre très très important de films, et en plus des grands films de très grande qualité sur la guerre du Vietnam. Vous irez voir la bibliographie dans les topos qui sont dans le mail. Et dernière chose, je vous encourage vivement à voir, vous la verrez dans la bibliographie, la production la plus brillante, à mon avis, sur le sujet, c'est un documentaire de 2017 de l'historien Ken Burns, qui est un historien de très 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 bon historien américain, qui a fait une série télé documentaire qui est passée sur Arte, qui s'appelle Vietnam, et en 10 épisodes, à partir de témoignages de survivants vietnamiens et de vétérans américains, et de films tournés dans la jungle en temps réel à l'époque, et il aborde d'une façon vraiment splendide et brillante la question de la guerre du Vietnam. Donc 10 épisodes Vietnam de Ken Burns, et c'est incontournable. Voilà. Et vous verrez le reste dans la bibliographie. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Donc j'ai terminé là-dessus. Et on peut ouvrir le débat.